Il est vrai que nous sommes dans un monde complètement contrasté. Il est vrai que d'une part, il y a l'adversité, nous avons besoin d'être délivrés de notre esclavage, esclavage de toutes sortes. C'est vrai que nous ne savons pas trop où nous allons. C'est vrai que nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir proche. Et c'est vrai aussi que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu de paix, que nous sommes remplis et environnés de bénédictions, que notre âme est exhortée à bénir le Seigneur en toutes circonstances. Notre monde est chahuté et ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et lorsque Jésus est venu au monde, eh bien c'était un peu pareil. Il y avait beaucoup, beaucoup d'oppression. Et il y avait aussi des sujets de grande joie. Il y avait l'espérance. Il y avait l'espérance de la délivrance. Il y avait l'espérance de la naissance du Messie. Alors c'est vrai que nous avons fêté Noël la semaine passée, une fête magnifique. Nous avons encore quelques vestiges. Nous avons vu des bergers magnifiques, des brebis magnifiques, une chorale d'anges. Mais aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Et nous allons reprendre le même texte. Nous sommes dans Luc 2. Luc 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et l'enfant, son premier-né, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ou dans la chambre des hôtes. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point ». Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie, Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Avez-vous remarqué, dans ce texte, nous avons deux tableaux parallèles, comme mis en miroir. Il y a une annonce et il y a une mise en mouvement. Et au cœur de cette annonce, il y a un personnage important, un Seigneur. Le premier tableau, c'est un édit. Une parole est donnée, un édit, un décret, un recensement. Et ce recensement, c'est César Auguste qui l'ordonne, au temps de Quirinus, gouverneur de Syrie. C'est un fait qui est attesté au niveau géographique et au niveau temporel, historique. En ce temps-là, un gouverneur, plutôt un empereur, ordonne un recensement. Il est dit, il est divulgué avec de la voix, de manière orale. Je ne sais pas qui était là la semaine passée. Vous avez tous le souvenir d'un centurion qui est arrivé, qui a harangué la foule, qui nous a ordonné d'aller se faire inscrire. C'était assez moyennement sympathique. Hein? En fait, on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait y aller. Pourquoi un recensement? Parce que nous sommes sous l'occupation romaine. Les Romains, c'est l'envahisseur, l'empereur, César Auguste. Il y en a eu plusieurs des Césars, mais tous, ce sont des envahisseurs. Et quel est leur objectif? Affermir l'Empire. Le recensement, il va permettre de recenser toutes les personnes solvables pour prélever des impôts. C'est pécunier. Pourquoi des impôts? Eh bien, pour bâtir, pour construire, bâtir des routes. Vous savez que le réseau routier des Romains était très, très développé. Bâtir des palais, des temples, parce que le culte de l'empereur s'est développé. Voilà pourquoi les impôts étaient prélevés sur une population qui était prise en otage. Le règne de l'empereur était oppressif, autoritaire. Enceinte ou non, il fallait y aller. Et Marie n'était sûrement pas la seule femme enceinte à avoir dû se déplacer pour aller se faire inscrire dans sa ville d'origine. Tu peux mettre la première dia si tu y arrives, André. Tu partages l'écran. Tu vas sur ProPresenter, tu mets le rouge. Et puis après, tu envoies le diaporama. Voilà, là tu envoies le diaporama et normalement tu es bon. Voilà, merci. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, Joseph et Marie n'ont plus de place. Voilà le trajet qu'ils ont dû faire. Ce trajet depuis Nazareth jusqu'à Bethléem, ça représente environ 112-115 kilomètres. Si on prend l'autoroute depuis La Chaux-de-Fonds, ça va jusqu'à Nyon. Pour vous donner un petit peu un ordre de distance. Il faut y aller à pied ou à dos d'âne ou voilà, avec les moyens du bord. Certainement pas en char, je ne pense pas. Donc voilà, peut-être que ça a pris plus de temps parce que quand on est enceinte, eh bien, on peut pas marcher rapidement. Voilà, tu peux enlever le partage. clique sur Escape. Et puis ensuite, tu vas sur ProPresenter et tu mets le vert et tu arrêtes le partage. Voilà, tu as quelqu'un qui vient te sauver. Merci. On peut imaginer avec tout le brassage de population qu'il y a du monde à Bethléem. Et le fait que Marie et Joseph ne trouvent pas de place dans l'hôtellerie, ça c'est ma vieille version, en fait, chambre d'hôte, c'est beaucoup plus juste. C'est pas parce qu'ils étaient pauvres ou que parce que Marie était enceinte, certainement pas. Mais déjà des auberges le long de la route, il y en avait, mais à Bethléem, pas tellement. En fait, les gens, ils se faisaient héberger chez l'habitant parce que la culture de l'hospitalité était très développée. Dans les maisons, chez les gens qui avaient des moyens pour avoir une maison, il y avait une chambre pour les hôtes de passage. Et certainement que chez l'habitant, chez chaque habitant, cette chambre-là était déjà prise. Alors on offre à Joseph, à Marie, d'aller dans une salle qui est attenante la plupart du temps aux maisons. Souvent de plein pied, c'est une salle où se trouvent les animaux. Et à l'étage se trouvent les familles. C'est souvent comme ça. Mais la belle image de la petite crèche bucolique avec l'âne et le bœuf, la crèche au milieu, enfin la mangeoire au milieu, c'est pas tellement la réalité de l'époque. Ça pouvait aussi être dans une grotte. Il pouvait y avoir plusieurs endroits. Mais certainement que Marie et Joseph étaient dans un endroit plus ou moins sécurisé dans le sens où ils avaient un toit, où il faisait peut-être pas si froid que ça, mais en même temps, Il faut imaginer la situation au milieu des beuses et de tout ce qu'on peut imaginer d'odeurs et de manque d'hygiène. C'était pas une situation facile. Alors, on peut déjà relever le contraste avec l'orgueil de l'empereur. Est-ce que Jésus était pauvre? Je ne pense pas. Le texte ne le dit pas. Joseph avait un métier, il était charpentier. Peut-être même qu'il y travaillait dans l'entreprise familiale. On ne le sait pas. Mais moi, je crois que Jésus n'était pas pauvre, mais que Jésus a voulu montrer son caractère dès le départ. L'humilité. Il a voulu s'abaisser le plus possible dès ses premiers jours sur terre. Il a voulu venir au monde comme chacun d'entre nous. Il a voulu venir au monde non pas dans des palais, mais dans l'endroit le plus reculé, le plus abaissé, pour montrer dès le départ son caractère. Jésus s'est abaissé pour descendre le plus bas possible dans notre misère, pour pouvoir nous en relever. Il n'est pas venu comme un empereur pour nous oppresser. C'est le mouvement inverse. Alors voilà, Marie et Joseph sont à Bethléem. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte l'insistance qu'il y a pour Bethléem. Ne serait-ce qu'au verset 5, trois fois il est question de cette ville, dans un seul verset. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Mais quelle insistance! Pourquoi? Eh bien, parce que cette ville, c'est celle que Michée a annoncée pour la naissance du Messie. Qui est-ce qui connaît Michée 5:1 par cœur? Michée, il a vécu à l'époque d'Ésaïe.
Toi qui es la ville la plus petite.
Continue.
C'est pas la moindre.
Il y en a qui passent du temps dans la parole. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Il y a déjà une mention que le Messie, il est éternel et qu'il vit bien avant sa naissance. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Bethléem. Le Messie devait naître à Bethléem. Il devait être de la descendance de David. Et là, il est dit deux fois que Joseph était de la maison, de la famille de David. Et Bethléem, c'est la ville de David. Mais quelle insistance! Il y a quelque chose qui dit, mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'empereur, il ordonne un recensement pour affermir son pouvoir à cause de son orgueil et parce qu'il se croit Dieu sur terre, il se croit tout puissant. Mais il semble oublier qu'il y a un Dieu bien plus grand qui est au-dessus de lui et qui utilise même son orgueil pour accomplir les prophéties. Dieu fait tout ce qu'il veut, mes amis. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quelles que soient les circonstances. Et s'il y a un message aujourd'hui pour nous, c'est de se dire, mais quelles que soient mes circonstances, soit je regarde mes circonstances, soit je regarde au-dessus, c'est-à-dire soit je regarde au Dieu, le seul vrai Dieu qui peut utiliser les circonstances en ma faveur. Ce Dieu-là qui se rit de ses adversaires, ce Dieu qui peut changer des situations. Le Seigneur nous a jamais dit que la vie sur terre et avec lui serait facile. S'il a un peu dit le contraire quand même. Mais il a aussi dit qu'il serait tous les jours avec nous. Et dans toute la parole, nous voyons qu'il est le maître de l'histoire et qu'il dirige toutes choses selon sa volonté. Mais allons dans le deuxième tableau, il est encore question de cette ville. de Bethléem, ville de David. Nous sommes dans ce deuxième tableau. Nous sommes dans la contrée où les bergers passent les nuits. Peut-être qu'ils sont autour du feu. Ils gardent leur troupeau un jour comme d'habitude. La routine. Et tout à coup, une annonce. Une annonce de nouveau avec la voix. Mais quelle annonce ! Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Imaginez un petit peu, imaginez la scène. Les bergers, ils sont tranquilles autour du feu, ils discutent, il y en a un qui va un peu dormir, voilà, il faut être là, c'est la routine, et tout à coup, la gloire de Dieu, tout à coup, une immense lumière, tout à coup, un ange, l'atmosphère du ciel qui arrive, qui les saisit, qui saisit leur cœur, qui saisit leur esprit, et qui les impressionne tellement qu'ils sont saisis de frayeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sentent l'environnement céleste. Ils sentent cette sainteté de Dieu qui les saisit. Et quelle est la parole de l'ange? Ne craignez point. Ne craignez point. Comme ça tranche avec l'édit qui ordonne aux gens d'aller se faire inscrire. Ne craignez point. Une parole remplie de bienveillance, de bénédiction, de bonté, de grâce. Et cette parole, c'est une bonne nouvelle. Ça n'est pas un ordre, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas en faveur des Romains et de l'oppresseur, mais pour tout le peuple. Pour tout le peuple, ce sera le sujet d'une grande joie. Et c'est pas qu'il est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, mais c'est il vous est né un sauveur. C'est pour vous, c'est en votre faveur, c'est pour vous que c'est une bonne nouvelle. Dans la parole de l'ange, il y a la bonté de Dieu. Et bien sûr, l'ange, il dit encore que c'est aujourd'hui dans la ville de David. Aujourd'hui, c'est à Bethléem. Rappelez-vous de la prophétie. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est le Messie qui est né. C'est celui que vous attendez depuis des siècles et des siècles. C'est fait. Il est là. Il arrive. Réjouissez-vous. Mais alors, quel est-il? Quel est-il ce Messie? Alors, on en a touché un tout petit mot la semaine passée. L'ange donne trois titres à Jésus, à cet enfant qui est né. Il dit un sauveur, parce que lui seul peut donner la paix, la vraie paix. C'est pas la paix dans le monde, c'est la vraie paix, c'est la paix intérieure, c'est la paix du cœur, c'est la paix de l'âme, c'est la paix de l'esprit, c'est la paix dans les relations, c'est la paix. C'est la paix dans notre être entier jusqu'au jour où Jésus reviendra établir sa paix qui chassera toute obscurité. Jusqu'au jour où Jésus établira son règne sur la terre d'une manière glorieuse. Jusqu'au dernier jour où Jésus revient. Il amène la paix parce qu'il nous sauve de notre péché, de notre déchéance, de nos manquements, de nos déboires, de nos difficultés, de nos douleurs, de nos incohérences, de nos agressivités, de nos injustices. Voilà pourquoi il nous donne la paix. Mes amis, quel contraste avec l'empereur. Quel contraste avec l'empereur. Lui, il se prend pour le sauveur. Parce que sous l'empereur romain, il y a la Pax Romana. Vous avez déjà entendu ce mot-là, la Pax Romana, ça veut dire paix romaine. Il y avait la paix romaine, il y avait un semblant de paix sous l'occupation romaine, parce que c'était une paix toute relative. C'était une paix qui était garantie par le pouvoir de l'épée. Tu désobéis, schlack. Et vous savez, Jésus n'est pas le premier à s'être fait crucifier, ni le dernier. Sous l'occupation romaine, on n'était pas tendre. Cette paix était vraiment relative. L'ange, il annonce le sauveur, le vrai sauveur, celui qui n'est pas seulement humain, mais qui est aussi divin. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ce sauveur, c'est le Christ. Christ, c'est un dérivé de Christos qui veut dire « oint ». Oint, c'est celui qui a reçu l'onction, c'est celui qui a reçu l'huile, c'est celui qui a reçu l'huile qui représente la qualification du Saint-Esprit. C'est celui qui a reçu et qui incarne en lui-même d'une manière totalement pleine et accomplie l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale du sacrificateur et du sacrifice. Le oint, en hébreu, on dit « Messiah » et ça veut dire « oint », ça veut dire « Christos », ça veut dire « Christ », c'est tout le même mot, le Messie. Et celui qui est « oint », c'est celui qui est élu, c'est celui qui a été choisi par Dieu. Donc c'est celui que les prophètes annoncent depuis le début. C'est lui qui vient de naître, c'est ce sauveur-là. Mais quel contraste avec l'empereur. L'empereur, c'est lui qui a voulu être empereur. Les Romains, c'est eux qui ont décidé d'être les maîtres du monde. Par la force, par l'injustice, par l'oppression. Mais Jésus, lui, il est le Fils de Dieu. Il est élu par Dieu lui-même. Il n'a pas essayé de s'élire lui-même, c'est le Père qui l'envoie. Et il y a un troisième titre, le Seigneur. Le Seigneur, c'est le même titre que celui qu'on donnait au Dieu d'Israël. Vous savez, l'empereur se faisait appeler le Seigneur, parce que ce soit en grec ou que ce soit en hébreu, c'est le même mot pour dire maître, seigneur. Kurios en grec. Adonai en hébreu. C'est le même terme, mais c'est bien différent. C'est bien différent parce que l'empereur veut être le Seigneur. L'empereur, c'est un homme qui se fait Dieu. Mais Jésus, il est Dieu qui se fait homme. Quel contraste! Quel contraste! Vous savez, au tout début de la parole, quand il est question de Dieu qui créa les cieux et la terre. Le terme qui est utilisé, c'est Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ça parle de la personne de Dieu d'une manière globale, presque basique. Et ensuite, quand Dieu se révèle à Moïse, c'est plus Elohim, mais c'est, en français, j'aimerais dire, c'est YHWH. Yod-He Vav-Ye. Vav-He, c'est... Je ne sais pas si... Non, là, pas là. C'est quatre consonnes. Dans les manuscrits, il n'y a pas les voyelles. C'est quatre consonnes. Et on ne sait pas comment prononcer. Ça fait Jéhovah, Yéhovah, Yahweh. On ne sait pas trop. Parce que pourquoi on ne sait pas trop? Pourquoi on a perdu la prononciation? À cause du commandement qui dit « Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain ». Alors quand Dieu se révèle à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis » et il y a ce tétragramme, ces quatre lettres qui veut dire « Je suis celui qui suis, je suis Dieu ». Et vu qu'on n'ose pas, que les Juifs ont peur de prononcer ce mot en vain, eh bien à la place ils disent « Adonai ». Chaque fois dans leur Bible où ils voient écrit ces quatre lettres, ils disent « Adonai ». Et, pardon ? Alors, oui, j'aimerais pas dire de bêtises sur Hachem, mais d'une manière générale, quand on lit la parole, en général, c'est Adonai, pour dire le Seigneur. Mais je veux pas aller plus loin. Le Seigneur. Donc, quand nous parlons du Seigneur, nous parlons de Jésus-Christ, mais nous parlons aussi de Dieu d'une manière générale. L'annonce de l'ange, c'est que Dieu lui-même est venu sur terre, que Dieu lui-même s'est incarné, que c'est un phénomène cosmique qui va changer la face du monde. Et c'est pour ça qu'il est dit aujourd'hui, c'est inscrit dans l'histoire. Aujourd'hui, il vous est né dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quel contraste! Quel contraste avec l'occupation romaine! Qu'est-ce qui se passe après cette annonce? Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée » ou selon les traductions « Bonne volonté aux hommes » ou « Paix aux hommes de bonne volonté ». Il y a plusieurs manières de traduire ces phrases-là, mais c'est une louange à Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Vous avez toute l'armée céleste, on a du mal à imaginer ce que c'est rempli d'anges et de l'armée céleste en train de rendre gloire à Dieu et en même temps d'envoyer la bénédiction sur la terre. Paix aux hommes, bonne volonté, bienveillance sur la terre. Le message de la naissance de ce Messie, c'est un message de bienveillance, de bonne volonté, de grâce et de paix. Alors que font les bergers? Que font les bergers? Eh bien, ils se mettent en route. Mais quel contraste avec l'empereur! À cause de l'édit, Joseph, Marie et les populations n'ont pas eu le choix. Ils se sont mis en route par obligation. Mais avec la parole de l'ange, qui n'était pas un ordre, qui était une bonne nouvelle, il leur donne juste un signe. Il dit pas « Allez à Bethléem ». Il dit « Voilà le signe auquel vous pourrez le reconnaître ». Mais ils sont complètement libres, les bergers. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent en route. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Imaginez un peu dans quel état ils sont. Ils viennent de voir la gloire céleste. Et à un moment donné, les anges repartent. Il fait de nouveau nuit. La seule clarté, c'est un feu. Ils se regardent les uns les autres. Mais on a rêvé ou on n'a pas rêvé? Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils parlent ensemble. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça commence à bouillonner dans leur cœur. Ils n'en peuvent plus. Ils ont été tellement touchés que c'est une transformation. C'est une transformation intérieure qui vient de se passer. Et en fait, c'est leur esprit, c'est leur cœur qui les tire de l'avant pour se dire, mais il faut qu'on aille à Bethléem. On peut pas rester là. Il faut qu'on se mette en route. Il faut qu'on aille voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il faut aller chercher. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et ils laissent leur troupeau, ils abandonnent tout, ils quittent leur pâturage et ils courent à Bethléem, ils arrivent à Bethléem et qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent aux portes. Vous avez entendu parler d'une femme qui aurait accouché cette nuit, le bébé serait dans une mangeoire. Mais oui, bien sûr, c'est la troisième rue à droite, vous tournez, vous allez le trouver, on leur a apporté des couvertures, on leur a apporté tout ce qu'ils avaient besoin, de l'eau. Imaginez un peu la scène. Et les bergers arrivent. Et il voit un bébé emmailloté dans une mangeoire. Tu n'as jamais vu. Waouh! Un bébé qui vient de naître. Waouh! Et il raconte. Et il raconte ce qui s'est passé. Et Marie-Joseph ne sont pas seuls. Mais il y a certainement la population, il y a certainement des gens qui sont venus les aider. Et les gens racontent, et après ils vont en ville, et ils racontent, et ils louent le Seigneur, et ils racontent tout ce que les anges ont dit, et ils repartent en glorifiant Dieu. Les bergers deviennent les premiers évangélistes. Ce sont les premiers qui annoncent l'évangile. Bien sûr, ils n'annoncent pas la croix, mais quand l'ange dit « Je vous annonce une bonne nouvelle », nous l'avons vu la semaine passée, « bonne nouvelle », c'est le mot « évangile ». Les bergers sont les premiers évangélistes, des bergers, mes amis. Les personnes les moins considérées, les personnes les plus méprisées, le bas peuple. C'est eux que Dieu choisit pour se révéler en premier. C'est eux que Dieu choisit pour les servir en premier. C'est eux que Dieu choisit pour aller enseigner le reste de leurs contemporains. Quel Dieu d'humilité! Quel Dieu qui s'est abaissé pour relever le faible, pour relever celui qui n'est pas considéré. Quel contraste avec l'empereur. Quel contraste. Quel contraste avec la mentalité de notre monde. Si on a de l'argent, on se fait bien voir. Si on a de l'argent, on peut être considéré. Si on a un poste élevé, nous sommes considérés. Si nous avons du pouvoir sur les hommes, sur les affaires, si nous sommes chefs de projet, chefs de département, chefs de je ne sais quoi, nous nous faisons bien voir. C'est la mentalité de notre société qui veut toujours plus, toujours mieux. Moi, 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 tant pis pour les autres. Les injustices qui se creusent de plus en plus. Quel contraste, notre Seigneur. Quel contraste qui s'adresse aux plus fragiles, aux plus faibles, aux moins considérés, qui les relève, qui les utilise. Les bergers, on en parle encore en 2023. Des gens qui n'étaient même pas considérés, on ne connaît même pas leur prénom. On en parle encore aujourd'hui. Waouh! Voilà ce que fait le Seigneur quand il change les circonstances. Alors, quelle est notre réaction lorsque le Seigneur nous parle? Quelle est notre réaction lorsque le Seigneur vient nous interpeller et nous attirer à lui? Ça peut être nous attirer à lui pour la première fois, ou simplement parce qu'on s'est un petit peu établi dans une routine. Moi, je ne crois pas que le Seigneur veut que nous soyons établis dans une routine chrétienne. Je ne crois pas que le Seigneur veut que nous soyons assis sur nos chaises spirituelles. Je ne crois pas. Je crois que le Seigneur veut que nous nous mettions en route. Je crois que le Seigneur veut que nous soyons comme ses bergers. Ce n'est pas par obligation que nous nous mettons en route pour aller chercher, comprendre les choses de Dieu, pour aller comprendre et saisir sa révélation. Mais c'est parce que nous comprenons qu'il a saisi notre esprit, qu'il nous parle. Mes amis, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit vous a touché. Nous ne pouvons pas confesser le nom du Seigneur Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si ce n'est sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous appelle, si le Saint-Esprit vous interpelle, il ne l'a pas fait qu'une fois. C'est tous les jours. Il demande à ce qu'on vienne le chercher. Quelles sont tes circonstances? Où est-ce que dans sa parole tu peux le trouver? Où est-ce que dans la prière tu peux le trouver? Comment est-ce que tu peux t'arrêter devant Dieu pour dire « Mais Seigneur, dans telle situation, où es-tu et où est-ce que je suis moi devant toi ?» Il faut se mettre en route, mes amis. Il faut aller chercher. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Il faut se mettre en route. Alors voilà ce que je vous propose pour ce matin. Je vous propose, vous pouvez venir le groupe de louanges, je vous propose que nous prenions la Sainte Cène dans une démarche de foi, c'est toujours une démarche de foi la Sainte Cène, mais que nous la prenions en nous mettant en route. Je vais prendre le texte, je vais dire le texte, je vais ouvrir ce moment-là, mais ensuite, on va se lever. Vous avez vu que les éléments sont disposés un petit peu différemment que ce qui est notre habitude. Et comme ça, nous pourrons nous mettre en route. Je propose que les gens qui sont derrière vont se lever en premier et ils prendront le pain. Et ensuite, ils prendront le jus de raisin et ils feront le tour de la salle. Ne revenez pas sur vos pas. Faites le tour de la salle pour retourner à vos places. Où que vous soyez, faites ce tour. Et vous qui êtes là, passez par là. Ne venez pas prendre un raccourci. Passez par là. Et pendant votre trajet, vous allez méditer à ces choses, mettez-vous en route. Peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie où vous savez que vous devez vous mettre en route. Peut-être que vous devez revenir au Seigneur. Peut-être que pour quelque chose de spécifique, vous devez le retrouver. Peut-être qu'il a quelque chose à vous dire. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je te loue pour le don de ta vie. Seigneur, merci parce que tu es venu nous rejoindre dans notre humanité pour nous relever, nous restaurer, nous sauver et nous pardonner, nous utiliser à ton service. Merci parce que tu es ce Dieu grand, redoutable, qui tient le cours de l'histoire entre tes mains et en même temps, qui est si humble, si bon, si tendre, si rempli de bienveillance. Seigneur, je te remercie pour ce pain qui représente ton corps et je le sanctifie en ton nom. Par la foi, nous allons prendre ce pain comme étant ton corps brisé pour nous. Je te remercie pour la coupe, ce fruit de la vigne qui par la foi est ton sang. Je le sanctifie, je sanctifie ce jus de raisin en ton nom, Jésus. Merci pour cette nouvelle alliance. Je te demande de saisir notre cœur et de nous aider à nous mettre en route pour que tu puisses à chacun spécifiquement nous dire comment te chercher davantage, comment te trouver. Et ne plus rester assis dans notre routine. Mettre debout, en marche, pour toi. Pour la gloire de ton nom.